ce dosage dont vous parlez relève peut-être du problème du timbre. Je pense notamment à votre idée d'analyser le timbre musical en termes d'aspectualité. Est-ce qu'il y a là aussi la possibilité d'une connexion avec le travail fait en phonologie et en phonétique?
Justement, la phonologie et la phonétique acoustique actuelle a fait des progrès considérables dans ce domaine. Alors, on peut se demander si, par analogie, ces modèles ne peuvent pas être appliqués à l'analyse musicale. Alors là, il faudrait distinguer deux choses, je crois. D'un côté, on pense souvent les formes musicales comme une syntaxe. C'est-à-dire qu'il y a une linéarité temporelle de la musique et c'est sur cette ligne qu'on inscrit les formes et leur évolution, leur itération, leur récursivité et tout cela. Alors c'est là que se situe le problème de l'aspect. C'est plus que caractéristique. Par exemple, dans la musique classique, l'aspectualité n'est pas marquée par la notation symbolique, mais pas des mots italiens. Alors, si on prenait tous ces mots italiens, si on essayait d'en faire une classification, une morphologie, on verrait que le rôle que joue l'aspectualité, parce qu'il s'agit là du discours, vous voyez. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, en ce qui concerne le timbre, je verrais ça un peu autrement. Je verrais ça comme une sorte de paradigmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après quand des sons d'origine diverse, provenant d'instruments différents, sont articulés en même temps, produisent des syncrétismes sonores. Alors ça fait penser à des phonèmes, vous voyez. Ce qui rend difficile l'analyse musicale, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée à formuler, disons, cette taxinomie des sons. Parce que le problème est simple. Vous voyez pourquoi nous sommes coincés quand il s'agit d'analyser, par exemple, la communication qui n'est plus, ne se situe pas sur le plan sonore, mais sur le plan olfactif. Une sémiotique des parfums serait possible. Seulement, comment nous dénommons ce qui sent bon? On dit la rose, on dit l'œillet, etc. C'est comme on dit clarinette, violon, etc. C'est-à-dire les sons sont désignés par le mode de fabrication et non pas par ce qu'ils sont. Alors que le parfum, disons, c'est un composé complexe des choses et ça, la communication parfumée se situe sur un autre plan, vous voyez à quoi je veux dire. C'est pas du tout que ce soit telle ou telle forme d'œillet ou de rose. Alors, avec la musique aussi, il faudrait élaborer une sorte de phonologie, des sons très distinctifs. Et c'est le timbre qui, pour moi, est la clé de l'affaire. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais je crois qu'un des pas en avant pourrait être situé, pour situer un peu les universaux de la musique, et non pas seulement ne pas rester au niveau du discours musical.
Claude Lévi-Strauss, qui vous avez cité et avec lequel vous avez beaucoup travaillé, et ainsi que James Lev, tous deux faisant partie de l'épistémée profonde de votre théorie, ont parlé, même si d'une manière un peu différente, d'une part de la fonction symbolique de la musique et du fait que la musique s'articule à travers une structure dite symbolique. Quel est, à votre avis, le rapport entre la musique, au sens général du mot, et le problème vaste du symbole?
Là, vous me placez des pièges. Évidemment, le problème de symbolisme est obscurci, occulté, justement par les différents usages qu'on fait de ce mot. Très souvent, les gens ne se comprennent pas, ne s'entendent pas, parce qu'ils ne parlent pas des mêmes choses. Qu'est-ce qui est symbolique? Enfin, est-ce que les considérations des philosophes du langage, tels que Cassirer, par exemple, emploient le terme symbolique pour dire que la langue naturelle, la langue que nous parlons, est un système symbolique. Voilà un sens. Et il y a l'algèbre, c'est un système symbolique. Vous voyez que c'était, la différence est énorme. Enfin, si vous référez à la psychanalyse, c'est encore autre chose. Alors, évidemment, on ne sait pas dans chaque cas concret, enfin, de quoi les gens parlent. Alors, je pense donc que il faut tenir compte, enfin, des possibilités du discours musical. D'une part, ce discours est évidemment, enfin, la manifestation du procès linguistique. Enfin, il est incontestable que ça a un sens et qu'il y a une articulation du signifiant. Alors, donc, quels sont les modes d'articulation? Ça, c'est une question subsidiaire déjà. Alors, on peut considérer, enfin, la musique comme une articulation dans le discours de plusieurs possibilités. Ça pourrait être comparé à quelque chose comme une langue naturelle, enfin, mais aussi comme un système où l'investissement de systèmes semi-symboliques à certains endroits, comme du symbolisme, disons, algébrique, presque, à d'autres endroits, puisque le discours est la réalisation de tous les possibles musicaux, des formes musicales, enfin, qui sont, enfin, disons, qui font partie du réservoir, enfin, dont le musicien se sert pour parler musicalement. Enfin, c'est cette distinction entre discours et les universaux musicaux, enfin, qui est capital, il me semble, pour comprendre ce qui se passe. Je ne fais d'ailleurs qu'appliquer, disons, les principes théoriques, en fait, de la sémiotique, en proposant de réfléchir. Est-ce que ça peut donner quelque chose, ce type de modèle, enfin, de réflexion sur la musique?
Est-ce que vous pourriez préciser ce sens très spécifique et technique que le sémioticien utilise du mot symbole et que pourrait s'appliquer à la musique?
Oui, vous savez, ce sens particulier n'est pas propre à la sémiotique, c'est également la logique, les mathématiques emploient dans le même sens le mot symbole. C'est-à-dire, c'est le caractère arbitraire, c'est la balance qui est symbole de la justice. C'est-à-dire, de manière arbitrairement, sans qu'il y ait une relation entre balance et la justice. Historiquement, évidemment, on peut trouver des explications. Mais autrement, il y a une sorte de quelque chose qui arrive, bon, et qui se produit sans relation. Alors, je pense, disons, à un discours musical qui serait, disons, coulant, enfin, tensif, et puis d'un seul coup, on donne un coup sur le grand tambour, enfin, sans, disons, relation logique avec le discours lui-même. Alors, dans ce cas, c'est pour moi l'emploi, enfin, du symbolisme, enfin, parce que ça peut signifier l'éclatement, enfin, quelque chose, absolument. Enfin, oui. frontières ou autre chose. Tandis que le semi-symbolique, ce serait déjà donc la prise en charge d'une petite structure binaire, ternaire, quaternaire, où les sons sont disposés de telle manière que ça provoque des oppositions de sens. Hein. C'est-à-dire que là, sur le plan pathémique, sur le plan des passions, enfin, on sent l'inversion des passions ou le passage de l'une à l'autre, enfin, suivant. Mais dans un petit cercle, disons, déterminé, alors que l'ensemble de l'œuvre peut se développer enfin, autrement. Je ne sais pas si... j'espère que je ne dis pas de bêtises, non ?
Justement, vous introduisez là le problème du pathémique, le problème des passions que l'auditeur ressent dans son écoute et que le compositeur, pourquoi pas, éprouve dans la manipulation du son. Et je crois que là, c'est un problème capital qui a été plusieurs fois signalé par les musicologues et les esthéticiens. Et au sujet des passions, vous avez élaboré une théorie qui se rattache à la théorie générale sémiotique et qui a essayé de décrire et expliquer une sorte de syntaxe de la passion. Est-ce que cet effort théorique peut trouver une application en sémiotique de la musique ?
Je crois que oui. C'est-à-dire que dans le langage commun, quand on parle de la musique, on dit que c'est un langage des sentiments. Alors, ça fait un peu cucu. Enfin, c'est comme si enfin, la musique, c'est sentimental, c'est quoi que ce soit. Alors que si on remet les choses à leur place, si on traite, disons, les passions, je dis passions, justement, c'est deux termes que j'ai choisis, pour qu'on ne parle pas de sentiments, d'émotions, enfin, c'est un vieux mot enfin, des philosophes du XVIIe siècle, enfin, pour dire enfin, tout ce qui concerne enfin, notre affectivité, notre timisme. C'est-à-dire. Alors la passion, dans ce cas, devient, enfin, c'est pour ça que nous l'avons baptisée sur le conseil de Paolo Fabbri, enfin, pathémique, le niveau pathémique, d'ailleurs ça vient de Spinoza. Alors, pour comprendre qu'il y a tout un niveau enfin, de discours presque indépendant du reste, du pragmatique, du cognitif, enfin, quelque chose où les passions se déroulent, enfin, et que la passion ce n'est pas du sentiment, enfin. C'est quelque chose, enfin, c'est la tensivité enfin, de notre être enfin, qui bouge, qui est tendu, détendu. Enfin, et c'est à ce niveau qu'on peut chercher à comprendre, alors, dans ce cas, le phénomène musical. La théorie des passions a fait, chez les sémioticiens, un tel progrès que maintenant, certains proposent même de considérer que c'est une dimension autonome, enfin, disons, de la narrativité et de la communication. En plus, je dirais qu'il ne faut pas comprendre ce thymique ou ce pathémique comme quelque chose uniquement affectif. Il y a beaucoup de cognitif dans le passionnel et beaucoup de passion dans le cognitif, afin que finalement, ce signifié musical est à la fois pathémico-cognitif enfin, et que c'est une chose enfin, que l'on peut et doit prendre très au sérieux. Enfin. En plus, enfin, il y a le caractère sonore du langage musical. fait qu'il est plus profond que le signifiant visuel, par exemple, ou que le signifiant articulé des langues naturelles. Ce qui fait qu'on peut peut-être même oser une certaine distinction entre les passions de l'âme et les passions du corps, enfin, et que la musique peut-être touche cet aspect des passions du corps, comme disait Descartes, enfin, et l'emprise en est beaucoup plus forte. Enfin, je ne sais pas comment formuler ça, c'est intuitif, enfin, ce que je dis, mais c'est dans cette direction que je chercherai à comprendre, enfin, un peu le signifié musical qui me semble, enfin, être quelque chose, enfin, de digne d'intérêt et qui promet toutes les difficultés du monde. Enfin. Mais alors, pourrait évidemment enrichir considérablement la théorie sémiotique. Qui était très vivante dans la première moitié de ce siècle, à partir de 1900. Enfin, c'est ce qu'on appelait la correspondance des arts. Enfin, on se demandait, enfin, comment peut-on établir des comparaisons, en quoi, enfin, est-ce qu'il y a des structures, disons, musicales qui seraient comparables, qui seraient traductibles, disons, en visualité. Le problème s'est reposé de nouveau avec Costin Viriano, par exemple. C'est parce que la musique moderne, enfin, ne trouve plus de notation adéquate, enfin, et la notation devient de la peinture, enfin, finalement. Alors, la réponse de la sémiotique pourrait être un peu en dehors de cette problème de surface. La réponse est jamslévienne. Hein. Le signifiant est articulé par des formes qui sont comparables aux formes par lesquelles s'articulent les signifiés. Et finalement, ce sont des formes abstraites. Hein. D'où le rapprochement médiéval avec les mathématiques, vous voyez. C'est-à-dire que il est possible, en dernière analyse, de réduire la forme sonore, enfin, à une forme abstraite articulée. Enfin. Alors, de même que la peinture est, par l'analyse, productible comme un ensemble d'abstractions configuratives. Alors, c'est à ce niveau seulement qu'on pourrait parler de la correspondance, on verrait. Est-ce que tel discours musical est comparable à tel discours pictural? Enfin, on verrait ensuite la spécificité de chacun des langages et leur tronc commun. Alors, ça m'apparaît une tentation, enfin, très intéressante. Peut-être que nous n'en sommes pas encore là. Que la sémiotique éprouve, hein, et qui pourrait être celle remplie par la contribution de sémiotique musicale. C'est le peu de connaissances que nous avons des formes temporelles. Oui. Parce que la musique se développe dans le temps. Alors, en ce qui concerne les formes spatiales, vous imaginez, pensez à l'analyse de la peinture. Nous disposons, disons, des formes saisissables, donc, et articulables, et réductibles à des formes géométriques simples, etc. Ouais. Une sorte de topologie, qui se dit. Alors que le temps, c'est la spécialité, en quelque sorte, de la musique, et ces formes, nous en savons très peu de choses, sur ce plan. Donc, il faudrait qu'il y ait cet apport de la musicologie pour qu'on puisse ensuite les formes temporelles et spatiales soient réductibles à un dénominateur commun et pour que nous sachions comment les... Déjà scientifiques d'une importance capitale. C'est dans ce sens probablement que Parette disait qu'il faut musicaliser la sémiotique. Alors, je suis persuadé que l'horizon sémiotique, non pas qu'il se transformerait, mais il changerait, il prendrait du poids et de l'ampleur si on faisait ce genre d'analyse amenant à des résultats concrets. Parce qu'on a trop facilement, d'après moi, la tendance de se moquer des gens qui, en écoutant Bach, par exemple, disent que c'est une architecture, que l'imaginaire produit des formes architecturales. Je crois qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a une sorte de correspondance, peut-être, entre la spatialité et la sonorité. Et que c'est là qu'il y a les liens communs, et que, finalement, l'enjeu, c'est la connaissance de l'homme et du sens pour l'homme, du sens du monde pour l'homme. Je crois que c'est des choses... C'est pas des plaisanteries, la musique, peut-être une chose sérieuse.
Monsieur Grimas, je vous remercie.